La nouvelle Suzuki Swift Hybrid. C'est un design inspirant, une technologie de pointe et une conduite exaltante à partir de 199 euros par mois. Nouvelle Suzuki Swift Hybrid. Place à l'exaltation.
Portes ouvertes ce week-end. Swift Hybrid Avantage. Location longue durée 37 mois, 30 000 km. Premier loyer de 4 000 euros. Entretien inclus, valable jusqu'au 30 juin 2024. Si accord Arval Service Lease. Détails sur Suzuki.fr.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC.
Excellent réveil à tous, vous avez choisi RMC, il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Emmanuel Macron attendu en Nouvelle-Calédonie. En fin de journée, le président est dans l'avion au moment où on se parle pour reprendre en main le dossier calédonien après 10 jours d'émeute. L'hommage national, ce sera tout à l'heure à midi aux deux agents tués dans l'attaque de convoi pénitentiaire la semaine dernière dans l'Eure.
Et juste après votre journal, Quentin, on sera en direct avec le maire de la commune où vivait Arnaud Garcia. Il le connaissait depuis des années.
Encore des dégâts avec les orages, on va en parler. Cette fois en Picardie, plusieurs communes ont été victimes de coulées de boue.
Emmanuel Macron est en chemin pour la Nouvelle-Calédonie ce matin.
Après 10 jours d'émeute et alors que le calme n'est toujours pas revenu dans l'archipel, c'est le président donc lui-même qui reprend en main le dossier calédonien. Cyprien Pezeril du service politique à RMC. Emmanuel Macron est attendu dans la soirée après un long périple.
25 heures de vol à l'aller, autant au retour et seulement une petite journée sur place pour Emmanuel Macron qui veut éviter de surmobiliser des policiers alors que la situation n'est pas encore revenue à la normale. Mais l'enjeu est bel et bien immense, permettre une reprise du dialogue. S'il fait 30 000 km, c'est qu'il croit que sa présence physique peut être utile, justifie son entourage. Il échangera avec des élus, des représentants de la société civile qui, précisément, on ne le sait pas encore. Le programme n'est pas établi pour ce déplacement à la hâte, même si Emmanuel Macron y penserait depuis plusieurs jours. Le chef de l'État qui devrait faire des annonces pour la reconstruction. Il y aurait déjà 1 milliard d'euros de dégâts. Enfin, l'autre volet des réponses sera politique. Le lancement d'une mission du dialogue, sans doute chapeautée par un haut fonctionnaire. Quant à un possible report du Congrès, comme réclamé de part et d'autre, là, l'entourage du président évacue. Aucun scénario n'est écrit à l'avance.
Alors, la situation sur place. Ce matin, le représentant de l'État, le haut-commissaire, parle d'une nuit plus calme que la précédente. N'empêche que le jeu du chat et de la souris se poursuit. Ça, c'est ce que dit un indépendantiste cette nuit. Toujours pas véritablement le calme, hein, selon la maire de Nouméa, Sonia Lagarde.
Nous avons eu 2 écoles incendiées cette nuit, 1 école pillée. Dans les quartiers nord aujourd'hui, il ne reste plus qu'une école sur les 5. Des barrages, effectivement, tentent d'être levés, mais il faut savoir que les émeutiers reconstruisent les barrages tout de suite après. Donc vous voyez que la nuit n'a pas été aussi calme que ça.
Emmanuel Macron, donc attendu en Nouvelle-Calédonie, il ne présidera pas, donc comme prévu, l'hommage national prévu aujourd'hui à Caen aux 2 agents tués la semaine dernière dans l'Eure, dans l'attaque d'un convoi pénitentiaire. Ce que regrettent d'ailleurs les syndicats de surveillants de prison. Emmanuel Macron a rencontré les familles des 2 victimes. C'était hier, précise le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Martin Cadoret s'est rendu pour RMC dans la commune de Blangy-le-Château, là où habitait l'un des 2 agents tués la semaine dernière et où ses proches suivront avec tristesse et amertume l'hommage national, donc tout à l'heure à midi.
Dans ce petit village, l'hommage à Arnaud Garcia sera très suivi.
Oui, on va regarder, bien sûr, voilà, tout en pensant à la famille.
C'est la moindre des choses, je pense que voilà, c'est essentiel. Parce que ce jeune homme a donné sa vie, je veux dire, il était très très impliqué.
C'est quelque chose qui me peine énormément, c'est quelque chose qui peine énormément Blangy.
Vincent, lui-même ancien gendarme, s'agace que l'on doive attendre les hommages pour se préoccuper des personnels pénitentiaires.
C'est de la réaction, parce qu'aujourd'hui, ce qui arrive à Arnaud, ça aurait jamais dû arriver. Mais je suis content qu'il y ait un hommage national et que, voilà, que ce métier est un peu plus reconnu à sa juste valeur.
Emeline connaissait bien la famille Garcia. Elle ne suivra pas l'hommage de ce matin, trop impersonnel, selon elle.
Mais ça ne m'empêchera pas de penser à Arnaud. Hein.
Elle préfère attendre samedi. Un hommage lui sera rendu ici, à Blangy.
Je serai au monument mort, ça c'est sûr. C'est plus intime, avec son village, là où il a grandi, là où il a été à l'école, là où il habite.
En attendant, ce soir, après l'hommage national, Fabrice Moello, l'autre agent pénitentiaire tué, aura lui aussi le droit à une cérémonie d'hommage dans sa commune de Thury-Harcourt.
À 7h04 ce matin sur RMC, plusieurs informations à vous donner à l'étranger. D'abord, il y avait des dizaines de milliers d'Iraniens rassemblés tôt ce matin à Téhéran, donc en Iran, pour rendre hommage, un dernier hommage à leur président Ebrahim Raisi, mort dimanche dans un accident d'hélicoptère. Le soulagement aussi ce matin à Singapour, où un avion de la Singapore Airlines a fini par atterrir après un vol absolument cauchemardesque, avec des turbulences qualifiées d'extrêmes carrément par la compagnie, de si fortes turbulences qu'elles ont fait un mort et 30 blessés. L'avion Londres-Singapour a dû se poser en urgence en Thaïlande. En France, ce sont les orages qui ont encore fait des dégâts. Cette fois donc en Picardie, où plusieurs communes ont été touchées hier par d'impressionnantes coulées de boue. Des portes, des fenêtres, des voitures même emportées dans la Somme, près d'Albert à Morlancourt. C'est ce que nous dit le maire sur place de la commune, Michel Destombes.
La quantité n'a pas été si énorme que ça. Bon, on a eu 20 mm, mais en fait, c'est tombé sur très peu de temps. C'était très localisé sur quelques communes. Le village est bâti dans une cuvette. Alors forcément, quand il y a des orages comme ça, très rapides, on a des coulées de boue. Il n'y a pas eu de personnes en danger. Par contre, il y a quelques sous-sols inondés, forcément. C'est surtout la boue qui gêne. Hein. L'eau, elle s'évacue, mais la boue reste. Hein. Et donc, on va, par contre, accumuler des centimètres de boue là, dans les rues pour nettoyer tout ça. Ça va être un peu catastrophique, quoi.
Et alors, pendant qu'il pleut sans arrêt dans la plupart des régions, les Pyrénées-Orientales guettent toujours la moindre goutte de pluie. 2 ans de sécheresse sur place. Le ministre Christophe Béchu, ministre de l'Agriculture, sera d'ailleurs sur place aujourd'hui avec un chèque de 10 millions d'euros pour financer des projets, la réutilisation des eaux usées notamment. Le ministre qui donne par ailleurs son feu vert pour le projet controversé qu'il avait lui-même critiqué d'ailleurs il y a quelques semaines, projet controversé de construction de golf à Villeneuve-de-la-Raho, un golf par manque d'eau, Jean-Wilfried Forquès.
Les opposants sont déçus car ils souhaitaient que le ministre annonce purement et simplement un abandon du projet. Mais Pierre Rossignol, du collectif Agissons, ne donne pas cher de ce futur golf dans le contexte de crise climatique.
Ça va se faire, mais ça va être une friche. C'est ça qui est malheureux. On va avoir peut-être un golf où je ne sais rien ce qu'on aura, parce qu'on n'arrosera pas, on ne pourra pas l'arroser. Hein. On ne va pas rêver, on ne va pas maintenir l'herbe.
Près de 4000 personnes ont manifesté contre la construction de ce golf le 14 avril dernier. Un rassemblement impulsé notamment par Oregan Nivet du mouvement Unitat Catalana, qui reconnaît avoir perdu une bataille, mais pas la guerre.
C'était pas une manif pour rien, parce qu'on a réussi à avoir ces déclarations du ministre qui disait que ce projet était anachronique. Maintenant, là, dans les faits, on n'a pas encore gagné ce combat, mais on continuera de le mener. Et en demandant concrètement des actes qui nous montrent que ce projet peut voir le jour avec ce recyclage des eaux usées.
Eaux usées des 600 appartements construits sur le golfe, la mairie de la commune s'y est engagée, et pas question d'utiliser un seul mètre cube d'eau puisé à l'extérieur du golfe, a d'ores et déjà prévenu le ministre de la Transition écologique.
Deux informations concernant les Jeux Olympiques ce matin. D'abord, l'opération séduction. Avant de partir pour la Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Macron déjeunait hier avec le président du Real Madrid pour le convaincre de laisser Kylian Mbappé, sûrement futur madrilène, de participer aux Jeux Olympiques. On verra si ça a marché. Et puis ce retournement de situation pour l'escrimeuse Isaura Tibus, énorme chance de médaille aux Jeux, qui vient d'être innocenté dans une affaire de dopage, 4 mois après un contrôle positif, Valentin Jamin.
Un immense soulagement et un grand bonheur. Voilà les premiers mots d'Isaura Tibus qui a appelé certains proches en larmes hier. La championne du monde 2022 peut reprendre le fil de son rêve assumé, ramener l'or en individuel et par équipe aux Jeux de Paris. Elle en était loin ces dernières semaines, interdite de s'entraîner, écartée du groupe France, privée de compétition pendant plus de 3 mois. La fleurettiste s'est entretenue physiquement et a fait appel à une psychologue. Tibus et son équipe ont convaincu le tribunal en prouvant que c'est son compagnon et entraîneur, ancien escrimeur, qui consommait en secret de l'ostarine et avait contaminé Tibus en l'embrassant le 14 janvier dernier. La Française vise maintenant les championnats d'Europe dans un mois, puis sera sélectionnée pour les JO, assure son entraîneur, même si la Fédération internationale et l'Agence mondiale antidopage peuvent faire appel.
Et puis je vous signale ce record du monde, on peut dire oui, ce matin, un alpiniste népalais qui devient le premier homme à gravir l'Everest pour la 30e fois.
30e fois, mais il y va combien de fois par an?
Eh ben, 30e fois, donc il est le plus haut sommet du monde à 1849 mètres.
C'est ça la vraie question.
J'essaie
vous pouvez
de
me trouver cette information?
Je vous la trouve, je vous la donne à 8h tout à l'heure.
Il va falloir qu'il se trouve une autre passion, surtout, là. Il doit commencer à se lasser.
Oui, 30 fois, on en a vraiment marre. Au bout d'un moment, c'est bon, là. Il a fait
par cœur, là.
Non, je pense qu'on s'en lasse pas. Franchement, je pense qu'on s'en lasse pas. Mais j'aimerais bien savoir quel âge il a pour savoir combien de fois il y a été par an.
On passe tous à 8h.
Merci, à tout à l'heure. Il est 7h09.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Hommage national tout à l'heure pour Arnaud Garcia et Fabrice Morello, les deux agents pénitentiaires tués il y a 8 jours lors de l'évasion sanglante de Mohamed Amra. Arnaud Garcia allait être papa, il vivait dans un petit village du Calvados. Le maire de la commune le connaissait très bien et il sera en direct dans un instant sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h11 et vous êtes bien sur RMC.
Le témoin RMC.
Cérémonie d'hommage national ce matin à Caen pour les deux agents pénitentiaires tués il y a 8 jours lors de l'évasion de Mohamed Amra. L'hommage aura lieu à la prison de Caen, là où étaient basés Fabrice Morello et Arnaud Garcia. Mais Arnaud Garcia, vous le connaissiez bien, Dorian Cogé, bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin. Vous êtes le maire de Blangy-le-Château dans le Calvados. C'est là que vivait Arnaud Garcia et sa famille. Ses proches assisteront à l'hommage national tout à l'heure. Est-ce que vous avez parlé avec eux, avec les amis de la famille aussi dans votre village? Comment vont-ils?
C'est pas évident, vraiment. Comme vous dites, Arnaud, ça fait 25 ans qu'il est arrivé au village. Tout le monde le connaissait de par son papa qui est l'adjoint en maire. Ici, on a un village familial. Tout le monde se connaît. C'est vrai que tout le monde est sous le choc, quoi. Ça bouleversait vraiment tout le village.
Un vrai choc. Le père d'Arnaud, d'ailleurs, je crois, est l'un de vos adjoints, au village de Blangy-le-Château. Vous étiez à l'école, je crois, avec Arnaud. C'est un jour d'hommage, et moi j'ai envie qu'on puisse le commencer tout de suite sur RMC. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous parler de lui? Ce sera notre manière aussi à nous lui rendre hommage. Comment était-il, camarade de classe? Comment vous l'avez vu grandir? Il allait être papa aussi, je crois.
C'est ça. Arnaud, quand il est arrivé, donc il est arrivé en cours de primaire. Pour nous, c'était le fils du gendarme. Donc c'était quand même quelqu'un de très discret. Et après, comme je vous dis, on est un village familial. Donc c'est vrai qu'on pouvait, à l'époque, on pouvait sortir. Il n'y avait pas encore les téléphones portables. Et c'est vrai qu'on passait tous des bons moments ensemble. On a grandi jusqu'à notre adolescence dans le village où on a pu profiter, quoi.
Et depuis son plus jeune âge, on dit qu'Arnaud était attiré. Vous dites d'ailleurs que c'était le fils du gendarme. C'est une vocation familiale aussi d'être dans le service. Son père gendarme, lui-même gardien de prison. Et il avait cette vocation dès l'enfance, vous en parliez?
C'est vrai, ouais, dès tout petit, il nous parlait qu'il voulait faire gendarme ou travailler au service de l'État. Il avait un peu... Je pense que son papa, il avait déjà plein d'engagement, effectivement.
La soif d'engagement, on l'entend, effectivement. Vous l'aviez revu récemment. Est-ce que sa famille, comment est-ce que le village entoure sa famille aujourd'hui?
C'est vrai que ce qui est vraiment très dur, c'est que à la dernière cérémonie du 8 mai, il était tout heureux. Enfin, ils étaient tous les deux très heureux et très très fiers de nous annoncer qu'ils allaient devenir papa. Et c'est vrai que on les avait jamais vus avec autant de bonheur en eux. C'était la fête au village. Donc on avait vraiment passé une super journée avec eux. Et ils avaient vraiment tout pour être heureux, quoi.
La fête du 8 mai, donc quelques jours seulement avant le drame. Votre commune organise d'ailleurs, je crois, sa propre cérémonie d'hommage. Ce sera samedi prochain. Est-ce qu'on peut aussi rendre cet hommage de manière sereine quand on sait que Mohamed Amra est toujours fugitif?
Non, c'est vrai que ça nous reste quand même dans les entrailles. On va dire que maintenant, comme vous dites, ça fait 8 jours et on retient ces mots là du Premier ministre qui nous a dit qu'ils allaient les traquer et qu'ils allaient les arrêter. Donc sincèrement, ça nous reste quand même dans les entrailles pour qu'ils réalisent. Mais nous, notre but, c'est vraiment de faire une belle cérémonie et que tout le monde ait accès et puisse rendre ce dernier hommage.
Pour que tout le village effectivement puisse rendre hommage donc à Arnaud, l'enfant du pays. Merci beaucoup, Monsieur le Maire, Dorian Coge, maire donc de Blangy-le-Château, d'avoir pu témoigner donc ce matin, témoigner de ce qu'était donc Arnaud Garcia. Je rappelle donc cette cérémonie d'hommage aujourd'hui. Et puis pour ce qui est de la traque, elle se poursuit. La procureure de Paris hier a parlé d'une enquête hors norme, mais a évoqué le fait que les enquêteurs ont, je cite, des pistes sérieuse. Il est 7h16 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Dans 20 minutes, une question. Quels sont les métiers qui pourraient disparaître avec l'intelligence artificielle? Vous êtes juriste, scénariste, graphiste, moi-même journaliste. On peut se sentir honnêtement menacé et on verra d'ailleurs si l'économiste Philippe Aguillon, spécialiste de cette question, qui vient de remettre le rapport sur l'intelligence artificielle, pourra nous rassurer. Rendez-vous à 7h40. Avant cela, le 7h20 d'Apolline Matin avec Amélie Rosic, Manuel Chip et Arnaud de manche.
Apolline Matin.
Les indiscrets RMC.
Et on vous emmène à l'Élysée ce matin pour les indiscrets. Bonjour Loïc Braillet.
Bonjour Apolline.
Loïc, vous nous dévoilez les coulisses du déjeuner hier entre Emmanuel Macron et le président du Real Madrid pour tenter de faire jouer Kylian Mbappé pendant les JO.
Oui, Emmanuel Macron semble être en mission sur ce dossier. Visiblement pour lui, hors de question que Kylian Mbappé, vedette et symbole national, ne participe pas aux JO. Mais comme les Jeux ne figurent pas aux dates FIFA, les clubs n'ont pas l'obligation de libérer leurs joueurs. Il faut donc tenter de les convaincre. Pendant les Jeux Olympiques de Paris, le Real Madrid sera aux États-Unis pour une tournée qui servira de préparation physique d'avant-saison, mais surtout de grande opération marketing très lucrative à laquelle le patron du Real veut absolument que Mbappé participe. Hier, Florentino Pérez était l'un des invités à Paris à l'occasion des 120 ans de la FIFA. Le président du club espagnol est arrivé en jet privé dans la matinée au Bourget avant de rejoindre directement l'Elysée où une réception et un déjeuner étaient prévus. En arrivant, Florentino Pérez est plutôt blagueur. Il sourit, semble détendu et s'assoit donc pour le déjeuner à la même table qu'Emmanuel Macron et Thierry Henry, le sélectionneur de l'équipe de France olympique également présent. Un plan de table élaboré par l'Elysée qui ne doit rien au hasard. Selon nos informations, Emmanuel Macron a beaucoup argumenté en discutant avec Pérez en lui disant en substance qu'un homme comme Mbappé qui réalise l'un de ses rêves, qui peut jouer les JO devant le monde entier, deviendra à coup sûr un joueur encore plus accompli et heureux de poursuivre sa carrière sous le maillot du Real. En résumé, ce serait aussi dans l'intérêt du Real de le laisser faire les JO. Pas sûr que Florentino Pérez l'entende ainsi, mais au moins, le message du président est clairement passé.
RMC, Apolline Matin, le 7h20.
Apolline de Malherbe.
Et c'est l'heure du 7h20 d'Apolline Matin avec autour de la table Amélie Rosic, Manu Le Chypre, Arnaud Demange. Bonjour à tous les trois.
Bonjour Apolline.
Amélie, vous avez enquêté sur un sujet très douloureux, très difficile, c'est celui du deuil périnatal.
Oui, c'est une maman en détresse qui nous a écrit. Joy, 32 ans, a donné naissance à des jumelles l'été dernier. Livia, bientôt 10 mois, et Eléa, née sans vie.
On a envie d'hurler sur les toits qu'il nous en manque une, qu'on se sent vide, qu'on a envie de s'arracher le ventre tous les jours. Et quand on rentre le soir, moi, ma première pensée, c'est qu'il devrait être deux à me sourire.
Comme pour tous les parents qui vivent ce drame, à la naissance, le couple a dû choisir. Organiser eux-mêmes les obsèques ou confier cette étape à l'hôpital. À ce moment-là, ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas la force de s'en occuper. C'est donc l'hôpital de Niort où ils habitent qui se charge de la crémation. Des mois plus tard, le 25 avril dernier, pour la première fois, Joy trouve le courage d'aller se recueillir au Jardin du Souvenir. C'est un espace au milieu du cimetière qui accueille les cendres de ses enfants nés sans vie. Elle consulte le petit livre des défunts, mais le nom d'Eléa n'apparaît pas.
Je suis revenue à la maison le soir et j'ai dit à mon mari, voilà, je fais un pas en avant dans mon deuil, j'ai fait trois pas en arrière. Et la seule chose que je peux faire pour elle, c'est de me battre pour que son nom il apparaisse. C'est juste ça, pour dire que ben, oui, tu as existé, oui, tu as eu de l'importance pour nous. Enfin, moi, j'ai le sentiment qu'elle a été mise à la poubelle comme un déchet.
C'est très très douloureux, on l'imagine, on le comprend. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, c'est toujours une convention entre l'hôpital, en l'occurrence de Niort, et la ville qui organise la crémation de ces enfants nés sans vie. Ce document, à Niort, croyez-le ou non, il prévoit l'inscription de leur prénom uniquement pour les parents qui s'occupent eux-mêmes des funérailles. Sauf que ça, personne ne l'a expliqué à Joy et son mari au moment où ils découvrent le drame. Et évidemment, s'ils avaient su, ils n'auraient pas fait ce choix, nous disent-ils. L'hôpital a tout simplement manqué à son obligation d'information.
Et quels sont les recours pour Joy?
Son témoignage, que nous avons porté haut et fort auprès de la direction de l'hôpital et de la mairie de Niort, a été entendu et bien au-delà de nos espérances. Écoutez, la procédure a changé sur notre impulsion. La petite Eléa sera bien inscrite au registre des défunts. Et désormais, mais tous les parents qui le souhaitent pourront en faire de même à Niort. Donc c'est une excellente nouvelle, c'est aussi ce que voulait cette maman. Pensez aux autres mamans derrière elle qui vivront ce drame. Rappelons aussi qu'il n'existe pas à ce jour de règles générales en la matière et qu'en fait, chaque ville est libre de rendre hommage comme elle le souhaite aux enfants nés sans vie.
Et merci Amélie, parce que c'est il y a des engagements qui touchent particulièrement et on pense à Joy. 7h23, l'écho. On passe à toute autre chose avec vous Manu. Ce chiffre, 400 000, c'est le nombre de logements qu'il faudrait en plus chaque année d'ici 2030.
Oui, effectivement. Alors, c'est un chiffre qui circule depuis pas mal d'années, hein, déjà dans les années 2000, mais qui semblait complètement dépassé, excessif, au vu du ralentissement de la démographie. Eh bien, pas du tout, nous disent les auteurs de l'étude réalisée par l'Union nationale des aménageurs et l'École supérieure des professions de l'immobilier. La principale explication, c'est ce qu'on appelle le desserrement des ménages. Alors,
c'est quoi?
Eh ben, c'est que le nombre d'habitants par logement ne cesse de de reculer en France sous l'effet de l'augmentation, par exemple, des divorces avec l'augmentation des ménages monoparentaux, l'augmentation de la part des personnes seules en lien avec le vieillissement. Et ce taux d'occupation, il va passer de 2,22 personnes en 2019 à 2,11 personnes en 2030. Alors vous allez me dire, c'est
ça
une
veut
petite,
dire plus de logements mais plus petits. Il faut plus de logements mais plus petits.
Exactement. Par exemple, cette décimale, 0,1 point, ça veut dire quoi? Eh ben, ça pèse quand même trois fois plus lourd sur les besoins en logement que le recul de la natalité. Ça explique presque le besoin de 150 000 logements. Et c'est vrai particulièrement dans les banlieues des grandes villes.
C'est pas la seule explication en besoin de logements neufs.
Bah non, parce qu'il faut aussi construire des logements neufs pour remplacer les logements vétustes, insalubres, ceux qui sont détruits. Il va falloir en construire beaucoup plus et en rénover beaucoup plus avec la transition écologique. Il faut suivre aussi les mouvements de population, bien sûr, notamment vers les villes moyennes, tenir compte aussi des flux migratoires. Si on accueille chaque année le même nombre d'immigrés qu'aujourd'hui, c'est quand même plusieurs dizaines de logements aussi. Et quand on a dit ça, on n'a pas parlé des résidences secondaires. C'est quand même une maison sur 10, sachant que la France est la championne du monde des résidences secondaires.
Arnaud.
Oui.
Arnaud, mon invité ce matin, c'est Éric Ciotti, le président du Parti Les Républicains.
Ouais, enfin un peu de rigolade. Alors, ce mercredi, nous recevons Éric Ciotti. Mercredi dernier, nous recevions Éric Zemmour. Mercredi prochain, Éric Antoine. Mercredi d'après, Éric Desmusclés. Heureusement qu'on n'a pas eu les deux Éric le même jour. Rendez compte, depuis le terrible attentat à l'œuf dont a été victime Éric Zemmour, il aurait vu Ciotti dans les couloirs, il aurait fait un œuf géant. Un œuf géant. Chassez-le. Au cachot. Au cachot. Éric Ciotti est le président des Républicains. Alors, pour les plus jeunes qui nous écoutent, les Républicains, c'était le grand parti de droite historique en France, mais il a disparu comme Gros Quick, la 5 ou les dinosaures. Et un jour, peut-être, des archéologues retrouveront des traces d'hommes de droite à Arcachon. Regardez, un squelette avec un pull Éric Bompard sur les épaules et des chaussures bateau. Et ils vont les cloner. Écoutez ce cri terrifiant d'un républicain préhistorique. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Le parti d'Éric Ciotti... République Park. Le parti d'Éric Ciotti... Pourquoi c'est les trucs les plus cons qui marchent. C'est bizarre. Le parti d'Éric Ciotti n'est pas très bien engagé pour les européennes. Seulement 7,5% d'intention de vote depuis des mois. Alors j'ai calculé, 7,5%, ça permet d'envoyer 5 députés au Parlement européen. Un demi-point de plus ferait passer la 6e députée. Et qui on a sur la liste à la 6e place? Nadine Morano. Ah, est-ce qu'on n'aurait pas un début d'explication aux 7,5 persistants? Là, je n'ose pas y croire. Éric Ciotti est au centre d'une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics. Et j'ai envie de vous dire, enfin, il commençait à faire honte à son propre camp. Sarkozy, Balkany, Fillon, Claude Guéant, il se moquait de lui. Ah, il est de droite et il n'a pas de casserole. Il n'a pas de casserole. Il n'a pas de casserole. Et ben voilà, c'est résolu. Rendez-vous donc avec Éric Ciotti à 8h30.
À tout à l'heure, Arnaud, on vous retrouve ici là à 8h20. Oh, bon, bon, c'est la trompette.
Alerte trompette.
Alerte trompette. Alerte roue. Mais ouais, je sais, j'adore. J'adore. Parce que vous avez 5 minutes pour vous inscrire. Vous envoyez roue au 7-32-16. Et on va faire tourner la roue. Et vous pouvez gagner jusqu'à 20 000 euros. Et si ça, c'est pas une bonne nouvelle, franchement, vous envoyez roue au 7-32-16. Et la roue sera donc tournée par Géraldine et moi tout à l'heure à 8h20. Amélie, ça vous amuse ou pas?
J'adore.
Ah, j'adore. Donc ce sera peut-être Amélie aujourd'hui. Amélie. Qui va tourner.
Parce qu'on a demandé à Géraldine de s'entraîner hier toute la journée.
Et moi, je me suis entraînée.
Ah, toi aussi, tu t'es entraînée. C'est bon, alors.
On verra. La roue tourne, elle va tourner aujourd'hui, demain. Bref, vous vous inscrivez roue au 7-32-16. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal des Lys d'Angean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Trop de concurrence et pas assez de clients. Les restaurateurs ne s'en sortent plus. Ils sont 7200 à avoir déposé le bilan l'an dernier. La profession réfléchit à limiter la création de nouveaux établissements dans certaines villes. Emmanuel Macron en route pour la Nouvelle-Calédonie. Un déplacement express et surprise pour tenter de reprendre la main. Et puis le vol Londres-Singapour frappé par de très fortes turbulences. L'appareil a chuté de 1800 mètres en 3 minutes. Un passager est mort, les autres, pour beaucoup blessés, sont arrivés ce matin à destination.
plus de 7000 restaurateurs ont mis la clé sous la porte l'an dernier.
C'est 44% de plus qu'en 2022. La faute à une fréquentation en baisse à cause de l'inflation et à une concurrence de plus en plus féroce. En France, on a un restaurant pour 170 habitants. C'était un pour 210 il y a 10 ans. La championne dans ce domaine, c'est Bordeaux, à tel point que la profession envisage de mettre en place un numerus clausus, Pierre Bourgès.
Dans le centre de Bordeaux, Paul tient un petit restaurant de spécialité italienne et depuis 2020, il a vu son quartier se métamorphoser.
La rue est petite, on a vu disparaître deux boutiques remplacées par des restaurants. Dans notre petit créneau de restauration, on a une offre qui s'est énormément développée à Bordeaux en 3-4 ans.
Selon lui, le nombre de concurrents directs autour de lui a doublé. Résultat, il a perdu 50% de son chiffre d'affaires. Il doit placer son restaurant en redressement et pour lui, la concurrence est le principal problème.
La part du gâteau est évidemment réduite. On se pose beaucoup questions pour poursuivre l'activité. Ça serait intéressant de trouver une régulation.
Réguler le nombre de restaurants, c'est l'idée de l'UMI qui représente les restaurateurs. Dans son enseigne, Elisabeth est séduite par la proposition.
Je trouve ça bien parce que on a vraiment un problème de concurrence. Le nombre de personnes est le même et on est partagé par plus de restaurants.
Franck, lui, n'est pas d'accord malgré les difficultés que Sacré Prix traverse. Il ne souhaite pas limiter la concurrence.
Laissez faire les gens. Les gens veulent investir, veulent créer. La concurrence est une chose qui est saine. L'économie va se réguler par elle-même.
La mairie de Bordeaux limite déjà la création de nouveaux restaurants depuis 2022, mais seulement dans certaines zones du centre-ville.
Un hommage national rendu ce midi aux deux agents pénitentiaires tués dans l'évasion de Mohamed Amra. Il se tiendra à Caen, où étaient basées les victimes du convoi pénitentiaire attaqué la semaine dernière dans l'Eure. Et c'est finalement le Premier ministre Gabriel Attal qui présidera la cérémonie. En l'absence d'Emmanuel Macron, le président a bousculé son agenda en dernière minute pour se rendre en Nouvelle-Calédonie. Il devrait arriver ce soir, accompagné de ses ministres de l'Intérieur, des Armées et des Outre-mer, au programme une journée sur place seulement. La rencontre avec les élus et probablement des annonces sur la reconstruction de l'archipel secoué par plus d'une semaine d'émeutes. Une annonce surprise qui interroge toute la classe politique, Romain Cluzel.
De la surprise et des doutes. Pour Philippe Gosselin, il fallait qu'un haut responsable de l'État se rende en Nouvelle-Calédonie. Malgré tout, le député LR se pose beaucoup de questions.
Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que ça peut permettre de décongestionner la situation? Je n'en suis pas certain. C'est un pari. J'espère pour la collectivité, pour la nation, que ce pari sera gagnant.
Un pari sans garantie de résultat. C'est aussi la crainte de l'insoumis Antoine Léaumont.
Si jamais le président de la République arrive à rassembler tout le monde autour de la table, je pense que ça sera une bonne chose. Mais s'il ne s'est pas assuré du fait qu'il était d'abord capable de rassembler et qu'il y va en disant « bon, bah moi j'y vais et puis on va régler le problème parce que c'est moi Macron, etc. », ça va très mal se passer.
Emmanuel Macron se rend sur place pour relancer le dialogue, assure le président du groupe Renaissance, Sylvain Maillard. Pour lui, la visite du président est une excellente décision.
Les différentes parties ne veulent pas parler les unes avec les autres. La venue du président de la République, je le pense, change les choses. Faire en sorte que puisse se créer un dialogue entre l'ensemble des partis.
Ce dialogue entre indépendantistes et loyalistes, c'est la seule solution, selon le député de la majorité, pour sortir de la crise politique en Nouvelle-Calédonie.
Et le Premier ministre Gabriel Attal se rendra lui aussi en Nouvelle-Calédonie, mais après les élections européennes. Il est 7h34 sur RMC. Les passagers du vol Londres-Singapour sont enfin arrivés à destination. Très traumatisés de leur périple, marqué par de fortes turbulences, tellement fortes qu'un passager est mort pendant le vol, âgé de 73 ans. Ce Britannique a fait une crise cardiaque. Les blessés sont très nombreux. 6 sont dans un état grave. Le récit de ce vol infernal avec Johanna Chabas pour RMC.
10 heures après leur départ, les passagers profitent de leur repas quand les turbulences commencent. Jerry, un touriste britannique, venait tout juste de s'asseoir, comme il l'explique à la BBC.
C'était léger au début, et puis d'un coup l'avion a plongé. C'était tellement soudain, il n'y a pas eu d'avertissement. J'y cognais ma tête au plafond, ma femme aussi. Des gens debout dans les allées faisaient des tonneaux dans les airs, c'était terrible.
L'avion chute de 1800 mètres en l'espace de 3 minutes avant de sortir de la zone de turbulence et d'atterrir en urgence à Bangkok. Andrew est encore sous le choc.
C'était absolument terrifiant. Nos affaires volaient partout dans la cabine. J'ai vu plein de gens blessés. C'est une expérience vraiment traumatisante.
Selon lui, les passagers blessés sont ceux qui n'étaient pas attachés. Pour Jean Serra, consultant aéronautique, la ceinture de sécurité peut faire toute la différence.
Si vous êtes attaché et avec la ceinture serrée, vous pouvez vous tenir, vous crisper sur les appuis-bras et puis arriver à supporter tout cela sans dégâts.
Singapour et les États-Unis ont envoyé des enquêteurs sur place pour déterminer précisément précisément l'origine de telles turbulences.
7h36 en football, Rodez se rapproche un petit peu plus de la Ligue 1 grâce à sa victoire au tir au but hier face au Paris FC. C'était pourtant mal parti après trois premières tentatives ratées. Prochaine étape pour le club Saint-Étienne vendredi. C'est le vainqueur de ce match qui tentera d'arracher la Ligue 1 à Metz, le barragiste. Il y a donc encore beaucoup de rendez-vous et les joueurs doivent rester concentrés, prévient leur entraîneur Didier Santini.
C'est ça le sport pour moi. C'est vivre des émotions. Ils m'en font vivre souvent. Je sais qu'ils sont capables de tout. Ils sont assez intelligents et professionnels pour se dire que s'ils veulent avoir une chance de faire un super match à Saint-Etienne et de se donner un espoir, il va falloir récupérer parce que c'est dans 3 jours. Donc ils vont être sérieux. Ils vont être très sérieux même.
Et ce soir, c'est la finale de la Ligue Europa à vivre évidemment en direct et en intégralité sur RMC. Bayer Leverkusen, Atalanta, Bergame, coup d'envoi à 21h.
Et le quintet, c'est à 13h55 sur l'hippodrome de Croisé-la-Roche.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Leur favori aujourd'hui, c'est le numéro 14, Ino du Lupin. L'outsider, c'est le numéro 9, Have a Dream. La course du quintet à suivre en direct sur RMC Découverte.
Il est 7h37 et on part tout de suite au 32-16 parce qu'il y a Robert qui voulait réagir à cette question des restaurants qui ferment. Bonjour Robert.
Bonjour Apolline.
Robert, comment ça va? Vous êtes directeur d'une agence de voyage à Arèche-Beaufort en Savoie. Et là, j'ai l'impression qu'on parle toute la journée de déserts médicaux, du problème des médecins qui ne sont pas remplacés. Chez vous, le problème, c'est que c'est les restaurateurs qui ne sont pas remplacés.
Oui, absolument. Nous perdons, depuis une dizaine d'années, nous avons perdu plusieurs restaurants. Et là, actuellement, j'ai une amie restauratrice qui cherche à vendre son restaurant depuis 3 ans. Elle n'y arrive pas. Et là, nous avons des touristes, notamment en été, plus en été qu'en hiver, qui se plaignent parce que nous n'avons pas assez suffisamment de restaurants dans la station.
Alors en fait, la difficulté, c'est que, évidemment, comme vous êtes dans une station, j'imagine qu'il y a des moments creux. C'est-à-dire qu'il y a du monde au creux de l'hiver, du monde au creux de l'été. Et donc, la difficulté pour les restaurateurs, c'est de réussir à tenir sur l'année, quoi.
Ah bah évidemment. Hein. Là, par exemple, en ce moment, le temps est gris, couvert.
Ne m'en parlez pas. Robert, je vous ai perdu dans le brouillard.
Oui, je suis là, Pauline.
Ouais. Donc vous dites, c'est compliqué à ce moment-là. Les gens, ils aimeraient bien se réfugier dans un bon resto.
Oui, absolument, bien sûr.
Il y en a combien de restaurants? Il y en a combien de restaurants à Arèche-Beaufort au moment où on se parle, Robert?
Dans la station même, il y en a 3, plus une table d'hôte.
D'accord.
Mais c'est vraiment insuffisant. Hein. Il y a encore quelques années, il y en avait 6. Et c'est exactement la même chose avec les cafés-bars. Hein. Il y a un café-bar qui a fermé. Eh bien, il n'a pas trouvé de repreneur.
Oui, donc, alors d'abord, l'alerte est lancée. Si vous voulez vous installer à Arèche-Beaufort, il y a des commerces en vente. Ça peut marcher, Robert, ça peut marcher.
Ah bah évidemment. Hein, il faut savoir que en saison, nous passons de 600 habitants à 7000.
Oui, et ça, c'est surtout 7000 qui sont des gens qui viennent dans une ambiance où on a envie d'aller au resto.
Bien sûr. Mmh. Hein, les restos sont pleins, hein, il faut réserver. En hiver ou même en été maintenant, puisque nous avons beaucoup de monde en été. En été, les restos sont pleins tous les soirs.
Et voilà aussi une des explications, hein, c'est la difficulté à reprendre aussi des cafés ou des restaurants. C'est exigeant aussi comme métier. Mais Robert, vous avez bien fait de passer par le 32-16. Robert, donc directeur d'une agence de voyage à Arèche-Beaufort, en Savoie. Très belle journée à vous, 7h39.
RMC, 6h39.
Apolline Matin.
Alors, le métier de restaurateur n'est pas en danger avec l'intelligence artificielle, mais il y a beaucoup d'autres métiers qui sont menacés. L'intelligence artificielle, elle est partout, dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, et ce n'est que le début. Dans un instant, toutes les explications et les perspectives. On va essayer de voir à quoi va ressembler le futur avec l'économiste Philippe Aguillon. Et il est plutôt rassurant, vous allez voir.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h42 et vous avez bien fait de choisir RMC.
L'invité du jour.
Parce que vous allez tout comprendre à l'intelligence artificielle. Faut-il en avoir peur ou au contraire l'accompagner? Avec vous, Philippe Aguillon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio ce matin parce que vous êtes non seulement économiste, mais vous êtes aussi le président de la commission sur l'intelligence artificielle qui a rendu son rapport à Emmanuel Macron. Le président a rencontré tous les patrons du secteur de l'intelligence artificielle hier. Il se montre assez optimiste sur l'effet de l'intelligence artificielle sur notre économie. Est-ce qu'il a raison d'être optimiste? Est-ce qu'on peut l'être?
Écoutez, il y a des bonnes raisons. Donc, dans le rapport, vous avez la version livre du rapport. Et moi, c'est la version. Et
là, j'ai la version. Voilà, Odile Jacob. Pour la France. Hein.
Voilà, publié par Odile Jacob. En fait, si vous voulez, dans le rapport, il y a toute une partie sur l'impact économique. Et nous, on pense que l'intelligence artificielle a un potentiel de croissance. Parce que ça permet en particulier d'automatiser certaines tâches dans la production de biens et services, mais également ça automatise certaines tâches dans la production d'idées. Et les idées, c'est l'innovation. Et donc l'IA, l'intelligence artificielle, permet vraiment d'augmenter la croissance. Voilà, elle a un potentiel de croissance.
Ça veut dire que c'est une forme de révolution industrielle.
Absolument, c'est une nouvelle révolution industrielle.
Quand
voilà,
on a inventé la vapeur, le moteur... Voilà.
Mais peut-être encore plus qu'avant, parce qu'on peut améliorer l'efficacité de la recherche. Quoi. On peut aider les chercheurs à être encore beaucoup plus productifs, à produire beaucoup plus d'idées nouvelles.
Alors j'imagine qu'il y a quand même une partie des métiers qui vont au minimum devoir s'adapter, peut-être même disparaître. Peut-être pour le mieux, peut-être pour que d'autres puissent ensuite émerger. Mais au moment où on se parle, il va y avoir de la casse.
Alors nous, d'abord, ce qu'on montre quand même de manière intéressante, c'est que sur une étude, sur un échantillon de 9000 entreprises françaises, on montre que les entreprises françaises qui adoptent l'IA créent plus d'emplois globalement que les entreprises similaires qui ne l'adoptent
pas. Donc on a intérêt à l'adopter.
Donc globalement, c'est créateur d'emplois. Pourquoi ? Parce que l'IA vous rend plus productif. Et donc, quand vous êtes plus productif, vous êtes plus compétitif, donc vous augmentez votre marché mondial, et donc la demande pour votre produit, et donc l'emploi.
Donc
mais ça n'affecte pas tous les emplois uniformément.
Alors, c'est ce que j'allais vous dire.
Il y a des emplois qui vont être menacés.
Ça, c'est une perspective. Mais ceux qui nous écoutent, qui sont, juristes, qui sont notaires, est-ce qu'il y a des métiers qui sont dans des PME
Alors chaque
comptable.
Métier.
Quels sont les métiers qui peuvent aujourd'hui être menacés ?
Chaque métier est un ensemble de tâches. Certaines tâches vont être automatisées, ce qui permettra de passer plus de temps sur la partie tâches créatives. Mais il y a des métiers où quasiment toutes les tâches vont être supprimées. Par exemple, doubleur de film, ça va pas être facile. Certains métiers de traduction vont être plus compliqués. Donc il y aura certains métiers où des emplois sont carrément supprimés. Nous, on pense que ça correspond à peu près à 5% des emplois qui, eux, carrément, vont être menacés en tant que tels par l'IA. Et là, c'est la formation, c'est l'organisation du marché du travail, une vraie flexi-sécurité. Moi, j'aime le système danois de flexi-sécurité. Vous perdez
c'est
votre
quoi, le
emploi.
Système danois,
le système danois, pendant 2 ans, vous avez 90% de votre salaire jusqu'à un certain niveau de salaire. On vous forme et on vous permet de rebondir sur un nouvel emploi. On vous propose 2 emplois dans votre qualification. Si vous en refusez plus que 2, eh bien, les allocations
baissent. Mais vous êtes payé 90% mais pendant 2 ans.
Jusqu'à un certain niveau de salaire, évidemment. Mmh. Voilà. Donc, c'est à la fois très généreux et en même temps, on vous pousse et on vous aide à trouver un nouvel emploi.
À vous reconvertir, à réinventer.
Je pense qu'il faudra une organisation de ce type. Pardon.
Quels sont ces 5%? Quand vous dites qu'il y a 5% qui vont être supprimés, vous avez parlé là, à l'instant, de tous les métiers de la traduction. Quels sont ensuite les métiers qui vont être transformés, qui vont devoir s'adapter?
Je pense qu'un peu dans tous les domaines, même juristes, même certaines choses qui sont un peu rébarbatives, qui sont faites que l'IA va faire, quoi. Et l'IA vous permettra de consacrer plus de temps à des tâches non rébarbatives, voilà. Même des managers, il y a un certain nombre de tâches administratives. Eh bien, l'IA vous permettra de gagner du temps sur ces tâches-là pour vous consacrer davantage à des tâches productives. Mais par exemple, il y a des métiers de clerc de bureau, par exemple, où là, beaucoup de tâches vont être remplacées. Et donc, il va falloir repenser le métiers dans son ensemble.
Les métiers manuels sont évidemment les moins touchés ?
Les métiers manuels ne sont pas particulièrement touchés, non.
Est-ce que quand même graphiste, on a vu beaucoup d'images, est-ce que ça, non seulement c'est un métier qui pourrait disparaître, mais surtout, est-ce qu'il faut accompagner, y compris les plus jeunes, et puis pas seulement les plus jeunes d'ailleurs, parce que nous tous, on pourrait être tout simplement victimes d'une sorte de distorsion de la réalité. Est-ce qu'il faut accompagner, apprendre ? Est-ce qu'on peut d'ailleurs s'exercer à être davantage vigilant?
Oui, absolument. Je pense que en fait, il y a un effort de formation qui doit être fait. Les bons usages et les mauvais usages de l'IA. Ça, c'est très important.
C'est quoi les mauvais usages de l'IA?
L'IA pour, par exemple, je vous fais passer Apolline, je vous représente et je fais une Apolline virtuelle et je lui fais dire n'importe quoi, par exemple. Ça, c'est pas un bon usage de l'IA.
Oui, on est d'accord, bien d'accord. C'est un très mauvais usage de l'IA.
Très mauvais usage de l'IA, voilà. Et donc, je pense que dès la petite école, il faut apprendre qu'est-ce que c'est qu'un bon et un mauvais usage de l'IA. Auprès du public, nous, on est pour des cafés IA, des grands débats IA. Il faut apprendre comment utiliser l'IA correctement. Ça, c'est un problème. Ensuite, dans les formations spécialisées à l'université, droit et IA,
chimie et IA, physique et IA. À chaque fois, l'IA joue un rôle différent et il faut intégrer dans chacun des programmes.
En fait, il faut que ça rentre à l'université,
évidemment, de manière adaptée à chaque métier que l'on apprend à l'université. Et puis, il va falloir former des gens qui développent l'IA et des gens qui déploient l'IA dans l'ensemble des secteurs de l'économie. Donc, il y a un énorme effort de formation. C'est pour ça qu'on pense qu'il faut beaucoup investir.
Beaucoup investir.
25 milliards sur 5 ans.
Beaucoup investir. 25 milliards sur 5 ans, oui. Dites-vous. Est-ce que la France, aujourd'hui, met suffisamment le paquet ou est-ce qu'elle est à la traîne?
Pour le moment, la France peut faire plus. Voilà, on avait mis, je sais quoi, 3 milliards
sur
8 ans.
Le prof dirait.
Ah oui, non, et maintenant, on doit passer à 5 fois 5, le gouvernement. Je pense qu'il faut aller. Parce qu'il faut à la fois former, il faut développer des chercheurs en IA, il faut diffuser l'IA dans l'ensemble de l'économie, il faut développer une puissance de calcul. Pour faire tout ça, il faut un soutien public. Et c'est un bon investissement.
Un soutien public, mais ça c'est à la française. Quand on regarde aux États-Unis que par exemple Microsoft développe donc 4 milliards, elle va développer 4 milliards en France, mais aussi ailleurs, ça veut dire aussi que les entreprises privées, notamment américaines, qui ont cette ampleur-là, vont mettre le paquet.
Absolument. Mais l'idée, c'est toujours d'amorcer. Vous savez, moi, je crois beaucoup, c'est comme les chemins de fer. Quand on a construit les chemins de fer en France, c'est un partenariat public-privé. L'État mettait, et puis les compagnies, et Perret, les frères Perret et d'autres. Et ça a été un partenariat public-privé. Eh bien, je pense que également dans l'IA, c'est un partenariat public-privé qui va nous permettre de...
Merci, Philippe Aguillon. On entend votre enthousiasme. Vous vous dites qu'il y a des choses à faire.
Voilà, investir et en même temps libéraliser, open source, les données libres, l'accès facile aux données de santé, par exemple. Parce que nous, on a une grande force en France. On a de très bons chercheurs et on a de très bonnes données, mais il faut aider les chercheurs à accéder aux données. Parce que l'IA, c'est une puissance de calcul et des données. Et il faut mettre en valeur les deux. Donc, de la concurrence, de l'ouverture et également une politique industrielle de l'IA.
Merci beaucoup, Philippe Aguillon, d'être venu nous expliquer tout ça dans ce studio. Votre rapport, il est effectivement publié chez Odile Jacob. Ça s'appelle IA, Intelligence Artificielle, notre ambition pour la France. Il est 7h50.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, expliquez-nous, Nicolas.
Je vous explique ce que prévoit la loi sur la fin de vie qui arrive devant l'Assemblée la semaine prochaine. Est-elle la plus permissive du monde ?
À tout de suite.
Apolline Matin.
Le bonus RMC.
Le bonus RMC du changement pour Passepartout et Passe-Muraille à Fort Boyard.
Une évolution majeure pour le rôle de ces personnages emblématiques du fort depuis 35 ans maintenant. Et bien pour la première fois cette saison, Passepartout et Passe-Muraille vont prendre la parole. C'est le comédien Anthony Laborde qui incarne Passe-Muraille qui l'annonce à nos confrères de TV Mag. Les deux personnages auront désormais la parole, pourront notamment interagir avec Olivier Mine ou avec les candidats. Car jusqu'à présent, la plupart des personnages du fort étaient muets. Ça permettait de rendre plus simple la transposition du jeu auprès des télés étrangères. Vous savez que Fort Boyard est diffusé, adapté dans des dizaines de pays, mais plusieurs voix, plusieurs associations avaient pointé ces dernières années le caractère un peu dégradant de ces rôles muets pour des comédiens de petite taille, réduits en fait à leur apparence physique. Argument entendu par la production et par France Télé, qui va donc donner la parole à Passe-Muraille et Passe-Temps pour cette 35e saison qui sera diffusée à partir du mois de juin.
Je suis Passe-Partout du Fort Boyard, je guide les casse-cou dans les traquenards qui rêvent de sous. Et de Boyard. Hey!
RMC, Apolline Matin.
6h53, Nicolas Poincaré.
Expliquez-nous.
Expliquez-nous, Nicolas. L'examen de la loi sur la fin de vie va commencer dès la semaine prochaine à l'Assemblée. En commission la semaine dernière, le texte a été modifié dans le sens d'un beaucoup plus large accès à l'aide à mourir.
Oui, et ces modifications feraient même de ce texte une des lois les plus permissives du monde en matière de suicide assisté ou d'euthanasie. C'est en tout cas ce que disent les opposants au projet. Emmanuel Hirsch, par exemple, qui est professeur d'éthique médicale, estime que si la loi devait passer en l'état, cela signifierait que le modèle français autoriserait des pratiques que l'ensemble des nations ont refusé jusqu'à présent. La Société française des soins palliatifs va dans le même sens. Elle affirme que le projet de loi en l'état permettrait d'aller plus loin que ce que font les Belges ou les Canadiens. C'est en réalité sans doute exagéré. La loi belge reste, à mon avis, beaucoup plus permissive, mais cela montre bien que les amendements qui ont été votés la semaine dernière provoquent un vif débat.
Ils disent quoi, ces amendements ?
Alors, ils font sauter un certain nombre de verrous qui se trouvaient dans le projet de loi du gouvernement. Le plus important, c'est l'article 6, celui qui détermine qui peut avoir le droit à l'aide à mourir. Dans le texte initial, cette aide devait être être réservé aux patients dont le pronostic vital était engagé à court ou à moyen terme. Dans la nouvelle version, on parle des patients souffrant d'une maladie en phase avancée ou terminale. Cette aide à mourir est toujours réservée à ceux qui souffrent d'une maladie grave et incurable, mais la notion de pronostic vital engagé à court ou à moyen terme disparaît. Cela élargit considérablement le nombre de personnes qui pourront avoir recours au suicide assisté. Mais il reste tout de même toutes les autres conditions et restrictions qui n'ont pas été modifiées. L'aide à mourir reste réservée à ceux qui présentent des souffrances réfractaires. Elle reste réservée aux majeurs. Les mineurs n'y auront pas le droit. Enfin, elle reste réservée à ceux qui vivent en France depuis longtemps. On ne va pas accueillir des étrangers qui choisiraient de venir mourir en France comme cela se passe en Suisse ou en Belgique.
Les débats ont aussi porté sur la question du geste fatal. Qui administre le produit létal ?
Oui, c'est une question délicate mais importante. Si le patient avale lui-même un cachet, on parle de suicide assisté. Si c'est un soignant qui lui fait avaler ou qui lui fait une piqûre, alors on parle d'euthanasie, et ce n'est pas pareil. Dans le texte initial, c'est bien le suicide assisté qui était autorisé, sauf en cas extrême, si le malade paralysé ne pouvait pas lui-même faire le geste. Dans la nouvelle mouture, le patient aura le choix de prendre seul le produit mortel ou bien de se faire assister par un médecin, voire par un proche. Pour les adversaires de l'aide à mourir, c'est encore un verrou qui a sauté, un verrou auquel tenait Emmanuel Macron.
Mais cette nouvelle version de la loi, c'est pas forcément celle qui sera finalement adoptée.
Non, pas du tout. Le texte va maintenant commencer un marathon parlementaire. Il sera donc examiné à partir de lundi à l'Assemblée, puis à la rentrée au Sénat, puis il reviendra à l'Assemblée, puis au Sénat, et cela nous mène sans doute jusqu'au début de l'année 2025. Et ces allers-retours vont permettre l'adoption d'amendements, et beaucoup pour revenir au projet de loi initial, donc plus restrictif. Les groupes parlementaires ne donneront pas de consignes de vote. Chacun se prononcera selon sa conscience.
Merci Nicolas. À suivre donc, effectivement, puisque c'est à partir de lundi que ça arrive à l'Assemblée. Il est 7h56. On se retrouve dans un instant pour la météo de journal.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.